Un chemin pour devenir chrétien, guidé par la pédagogie du Christ. Voici la première partie de l'intervention du Père Pierre Deberger, recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Une intervention enregistrée le 27 octobre 2006 à Ustaritz, lors de la session de rentrée des catéchistes. Un chemin pour devenir chrétien, guidé par la pédagogie du Christ. Écoutons la première partie de l'intervention du Père Pierre Deberger.
Ce que je vous propose, c'est effectivement un regard sur la pédagogie de Jésus. Nous nous dirons des choses très très simples que vous savez, mais il me semble que l'Évangile n'est pas fait de choses compliquées. Il n'y a rien de compliqué dans l'Évangile. Et il n'y a rien de compliqué dans la manière dont notre Dieu se révèle. Alors, en regardant la pédagogie du Christ, nous n'oublierons pas, et pour moi ça peut être important comme première remarque initiale, que la manière dont nous avons d'une certaine manière à nous comporter à l'égard de ceux et celles qui nous sont confiés, en nous montrant fidèles au Christ, c'est la manière dont il se comporte à notre égard. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas des maîtres. Et en régime de foi et en régime chrétien, le Christ le dit d'ailleurs, n'appelez jamais personne maître. Il n'y en a qu'un. Nous, ce que nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples, comme le dit Matthieu à la fin de son évangile, hein, de chapitre 28, verset 19. Ça veut dire des disciples qui sont en même temps appelés à faire des disciples. C'est la fin de l'évangile de Matthieu où Jésus envoie les apôtres en leur disant « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Je crois que le mot de disciple est important. Ce n'est pas nécessairement un savoir qu'on a à transmettre. On a à conduire, on a à conduire au Christ. On a à conduire au Christ. Et c'est ça le plus important. Mais c'est aussi là que se joue le mystère d'une rencontre dont on n'est pas le maître et dont on ne sera jamais le maître. Alors, nous en parlerons tout au long de la journée, peut-être plus particulièrement cet après-midi, où on essaiera de voir ensemble ce que la parole du Verbe fait chair, ce qu'elle peut produire dans le cœur d'un être humain, voilà, quel qu'il soit, quel que soit son âge, lorsqu'il accepte de se laisser saisir par elle. Mais ce matin, nous n'oublierons pas, voilà, nous sommes des disciples, d'abord. Voilà. Nous ne sommes pas des enseignants, nous ne sommes pas des maîtres, nous ne sommes pas, alors on pourrait dire des témoins, oui, mais des disciples. Ça veut dire que, on aura l'occasion de se le redire, ce chemin, que nous allons, ou que nous présentons d'une certaine manière à ceux et celles qui nous sont confiés, il ne nous est pas étranger, parce que c'est aussi le nôtre, quel que soit notre âge. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on n'a jamais fini de se laisser catéchiser. Et ce n'est pas parce qu'on est catéchiste, voilà, hein, ou parce qu'on est enseignant, qu'on n'a plus besoin de se laisser enseigner, qu'on n'a plus besoin de se laisser catéchiser. C'est constamment, et on le dit souvent de l'Église qui a comme mission, bien sûr, d'annoncer l'Évangile, mais qui pour cela doit constamment aussi se laisser évangéliser. On pourrait ajouter à cela, mais je m'arrêterai là, que se laisser évangéliser, se laisser catéchiser, se laisser éduquer, mais c'est peut-être d'abord se laisser éduquer et évangéliser par ce dont on a la responsabilité. Par ce dont on a la responsabilité. Ce qui va inscrire dès le début, c'est vrai, dans sa manière de faire et dans sa manière d'être, une attitude qui sera faite d'écoute, d'émerveillement, d'attention. Et cela est peut-être d'autant plus important que nous vivons dans un monde, c'est vrai, qui devient, on peut le dire quand même, de plus en plus païen, où les références à l'Évangile, à la culture chrétienne ne sont plus celles d'il y a encore quelques années, et où finalement la découverte ou la manière dont certains jeunes, certains enfants, certains adultes découvrent le mystère de la foi. Peut-être pour l'Église que nous sommes et que nous formons ensemble, l'occasion, pourquoi pas, de grandir dans une saine jeunesse. Il semble qu'il y a des choses, voilà. Ça, c'était un peu l'introduction. Hein, nous ne sommes pas des maîtres, nous sommes des disciples. Ça, nous le resterons. Et je crois qu'on le sera toute notre vie. Des disciples en chemin, et pourtant qui ont reçu mission, comme les apôtres, voilà, de faire des disciples. Alors, quand on dit disciples, évidemment, ce que l'on va évoquer, c'est aussi, on y reviendra, la dimension de rencontre. De rencontre. Le disciple, c'est celui qui se met à la suite de quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas nécessairement une affaire de connaissance ou de savoir. C'est plus de l'ordre de la rencontre. Alors, une fois que j'ai dit cela, je voudrais relever simplement quatre, il n'y aura pas plus, quatre grandes attitudes de Jésus qui peuvent, je crois, éclairer notre réflexion autour d'une pédagogie. Alors on dit pédagogie de l'initiation, une pédagogie à mettre en œuvre dans un contexte culturel, dans un contexte ecclésial qui change, qui n'est plus celui d'il y a quelques décennies. Alors, le premier constat ou la première remarque, je vous l'ai dit, ce sera une chose tout à fait simple qu'on va se dire. Hein. Il n'y aura rien de... La première chose, le premier constat, c'est de se dire que ce que Jésus va appeler, pour instaurer, ou ceux et celles qu'il va appeler, pour instaurer avec eux un véritable compagnonnage, parce que c'est un compagnonnage, eh bien ce sont des hommes et des femmes que rien ne rapprochait. Quand on regarde les évangiles, on constate, mais quand on regarde le groupe des 12 par exemple, on constate qu'il y a là un publicain, donc quelqu'un, Matthieu, percepteur, qu'il y a là un futur renégat, qu'il y a là quelqu'un dont on dit qu'il était zélote, Simon le zélote, qu'il y a là peut-être deux frères dont le caractère n'était peut-être pas des plus faciles, puisqu'on les appelait les fils du tonnerre. Voilà. Qu'il y a là Pierre, Jacques et Jean, que nous connaissons davantage. Voilà. Mais à regarder ce groupe, on voit bien que Jésus a réuni là un certain nombre d'hommes que rien ne rapprochait d'un point de vue social, d'un point de vue culturel. Des hommes qu'il n'a sûrement pas réunis non plus à cause ou de leur vertu ou de leur mérite. Quand on regarde la suite de l'Évangile, on voit bien que si l'un est sans doute très généreux, il n'en est pas moins faible. Hein. On peut penser à Pierre, on peut penser à que même entre eux, les relations ne sont pas toujours les plus faciles. Et puis, lorsqu'on regarde aussi le groupe des femmes, parce qu'il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus, on constate que ces femmes étaient extrêmement diverses, elles aussi. Il y avait des femmes de la haute société, nous dit l'évangile de Luc, qui aidaient Jésus et ses disciples de leur bien. Il y avait des femmes qui ne devaient pas avoir nécessairement une très bonne réputation. Voilà. Et réunies, voilà. Ils réunissent. Voilà. J'insiste sur ce point. Un peu des hommes, voilà, des hommes, des femmes qui n'avaient pas, voilà, dont la vie n'était pas nécessairement exemplaire, dont les qualités n'étaient pas évidentes, dont les motivations religieuses n'étaient peut-être pas non plus les mêmes. Et ça, on le voit quand on regarde, par exemple, les disciples d'Emmaüs, où on voit bien que les disciples d'Emmaüs, eux, en étaient restés à un projet un peu politique. Nous espérions qu'ils libéreraient, oui, Israël. Et là, nous sommes à la fin de ce compagnonnage. Quand on regarde Pierre, si on en croit l'évangile de Jean, Pierre, Jacques et Jean, il y avait là manifestement des disciples qui avaient une certaine attente religieuse. Oui, ils attendaient que le judaïsme de leur temps soit un judaïsme plus pur. Mais en même temps, lorsqu'on voit les difficultés de Pierre à comprendre que Jésus est le Christ, mais qu'il n'est pas un Christ à la manière de ce qu'on attendait, c'est-à-dire un Messie politique, un Messie puissant, mais qu'il va être un Messie qui se donnera à voir dans la plus extrême faiblesse. On comprend que là, Pierre n'était pas tout à fait prêt. Donc, des hommes et des femmes que rien ne rapprochait, des hommes et des femmes aux attentes très différentes, des hommes et des femmes dont la vie n'était pas nécessairement exemplaire, des hommes et des femmes qui n'étaient peut-être pas nécessairement les plus cultivés, des hommes et des femmes dont la réputation pouvait être même douteuse, mais des hommes et des femmes sans doute en attente, et suffisamment en attente pour se laisser saisir par une parole, viens, suis-moi, ou par un enseignement. Mais une parole, un enseignement, qui vont aussi parfois faire naître l'attente. Jésus va à la rencontre. Il va, il appelle, et il instaure un véritable compagnonnage, c'est-à-dire un vivre avec. Dans l'évangile de Marc, on nous dit que lorsque Jésus institue les 12, d'abord c'est pour qu'ils soient avec lui. Il y a un être avec. C'est un compagnonnage. Et un compagnonnage qui s'échelonnera effectivement sur un certain nombre d'années. Un certain nombre d'années, 3 ans au minimum. En notant cela, je noterai aussi que Jésus se démarque des rabbis de son temps. Les maîtres de son temps étaient dans leurs écoles et ils attendaient qu'on vienne à eux. Chez Jésus, c'est l'inverse. Il n'attend pas qu'on aille vers lui. Il va à la rencontre. Et il va appeler ces hommes et ces femmes, pour certains d'entre eux, on le voit bien dans les évangiles, sur leur lieu de travail. Les pêcheurs, Pierre, Jacques, Jean et André, qui sont en train, au bord du lac, en train de laver ou de réparer les filets. Le douanier ou le publicain qu'est Matthieu, il sera appelé à son poste de douane. Voilà, on a des exemples. On a d'autres exemples ou d'autres versions. Ça, ce n'est peut-être pas inintéressant pour nous. Où l'appel de Jésus passe aussi à travers des médiateurs. Alors ça, c'est la version que l'évangéliste Jean nous donne du récit de Pierre, de l'appel de Pierre, de Jacques, de Jean et d'André. C'est que Jean a une version un peu différente. On n'est pas sur le bord du lac de Tibériade, mais on est dans l'environnement de Jean-Baptiste. Et c'est André qui va trouver Pierre en disant à Pierre, nous avons trouvé le Messie. Et c'est André qui va chercher Pierre et qui va conduire Pierre, donc il y a aussi quelque chose d'intéressant, qui va conduire Pierre auprès de Jésus. Et là, il y a un dialogue qui s'instaure. Pierre, André voudraient savoir qui est davantage qui est Jésus. Et la réponse de Jésus, c'est de dire « Venez et voyez, venez ». Venez, et vous verrez. Voilà, un premier point, tout simple. Voilà. La deuxième remarque, c'est de se dire que ces hommes et ces femmes avec lesquels Jésus va instaurer un véritable compagnonnage, eh bien, il va les former non pas en dehors du monde, mais dans le monde. C'est dans le monde. Et il va les former... Et ça, c'est aussi une caractéristique de la pédagogie de Jésus. Il va les former à partir de ce qu'ils sont. À partir de ce qu'ils sont. À partir de leurs questions. À partir de leurs doutes. À partir de leurs incompréhensions. C'est assez souvent qu'on voit dans l'évangile Jésus justement interroger ses disciples. Alors, il y a la fameuse question, bien sûr, pour les gens qui disent qui suis-je, pour vous, qui suis-je? Mais assez souvent, on voit Jésus interroger et dire même, mais vous ne comprenez donc pas? Voilà, c'est un chemin progressif, qui s'instaure, où Jésus se révèle, comme d'ailleurs le Dieu de la Bible le fait, hein, il se révèle, mais à la mesure de ce que ceux et celles qu'il forme peuvent entendre de lui. Voilà. Peuvent entendre de lui. En même temps, si on élargit le cercle des disciples, et si on regarde certaines rencontres de Jésus, on constate que Jésus n'hésite pas, souvent, à se mettre aussi dans la position de celui qui reçoit. C'est étonnant, il n'est pas simplement celui qui va donner, mais il est aussi celui qui se met en position de réception, d'écoute. Je suis toujours frappé par le récit de la Samaritaine. Voilà. Il est, lui, la source d'eau vive. Mais vous connaissez le récit. Il commence par demander à boire. Il n'aborde pas la Samaritaine comme celui qui est là pour étancher toutes ses soifs. Il commence par lui demander de lui donner à boire. Donne-moi à boire. Et puis après, voilà, alors la Samaritaine, qui était sûrement une femme, elle aussi, je dirais qu'il ne devait pas avoir une très bonne réputation, puisque quand on allait chercher l'eau en plein milieu du jour, c'est-à-dire à l'heure la plus chaude de la journée, c'était peut-être qu'on ne pouvait pas y aller aux heures habituelles, c'est-à-dire le matin, très tôt, peut-être pour des raisons justement de difficulté, de convivialité, pour ne pas dire de rejet. C'est à ce moment-là que Jésus intervient. Il lui demande à boire. Et puis après, il va quelque part, à sa manière, la conduire à parler de sa vie. Il va la conduire à parler de sa vie. Et c'est après, et là il y a toute une pédagogie, c'est après que progressivement, il va lui, oui, se présenter comme l'eau vive. Et c'est à la fin qu'elle va le reconnaître et qu'elle deviendra missionnaire. C'est un très beau passage. C'est elle qui, à la fin, est missionnaire. Et elle va dans son village, elle que l'on rejetait, pour dire « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est un prophète. » Mais il y a cette pédagogie. Donc, Jésus, non pas en dehors du monde, mais dans le monde, en épousant ce qui fait aussi la vie, cette manière de ceux et celles qu'il rencontre. Évidemment, on aurait pu évoquer les disciples d'Emmaüs. Voilà. Avant de se révéler comme le ressuscité, que fait Jésus? Il invite ces deux disciples à dire ce qu'ils vivent, voilà, ce qu'ils ont vécu, leur drame. Et puis c'est après qu'il va leur ouvrir l'intelligence des Écritures. Mais il me semble qu'il y a là quelque chose d'important. Voilà. De ce temps qui est souvent le temps de l'écoute. Jésus commence par écouter. Il n'est pas là pour transmettre nécessairement, il est là pour transmettre, pardon, c'est vrai, un message. Mais ce message s'accompagne d'une attention aux personnes, d'une attention à chacun. Alors on pourrait aussi évoquer toutes les fois où les disciples pensent que tel ou tel, je pense à l'aveugle Bartimée ou d'autres, en disant « mais non, ne va pas importuner notre maître ». Ou les enfants, qu'on rabroue. Et Jésus va dire, non, qu'ils viennent. C'est vrai qu'il y a là quelque chose d'important. En même temps, Jésus enseigne, et lorsqu'il enseigne, il enseigne à partir de la vie. C'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il y a en Jésus, ou chez Jésus, une connaissance parfaite de ce qui fait la vie des hommes, une attention réelle. Alors on pourrait évoquer ici les paraboles, ces histoires que Jésus emprunte à la vie quotidienne, des histoires que tout le monde comprend, sont des histoires ouvertes aussi, sont des histoires qui n'enferment pas, des histoires que tout le monde peut comprendre, mais lorsque Jésus les raconte, c'est toujours pour conduire à son Père, toujours pour conduire à son Père, toujours pour indiquer aussi ce que le règne de Dieu peut avoir de dérangeant. Voilà. Mais il part de la vie, il part de la vie. La brebis perdue, les semailles, les vendanges, les ouvriers de la dernière heure. Voilà. Ces ouvriers qui, tous les matins, sont sur la place des villages, comme cela était tout à fait courant à son époque, attendant qu'un maître ou que les serviteurs de ce maître viennent les embaucher. Qui pour une heure, qui pour deux heures, qui pour une journée entière. Il part de cela, il part de la vie, parce que la vie, voilà, parce que la vie, d'une certaine manière, est pour lui le lieu même où son Père se révèle. Ce n'est pas simplement des illustrations. Les paraboles ne sont pas simplement des illustrations. Elles disent à leur manière aussi la passion de Dieu pour notre monde. Et elles disent que rien de ce que nous vivons n'est étranger. Ce ne sont pas simplement des histoires. Mais c'est vrai, ces histoires débouchent toujours sur la nouveauté du règne de Dieu. Voilà. L'amour de Dieu, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu font éclater, voilà, font éclater ce que souvent voilà, nos conceptions de la justice ou de l'amour ou du pardon peuvent avoir détriqué. Il y a toujours un élargissement. Voilà. Ce qui fait que, toujours par rapport à cet enseignement qui est dans le monde, à partir de ce qui fait nos vies, qui s'inscrit dans un contexte d'écoute et d'attention, eh bien, cet enseignement débouche, d'une certaine manière, sur le constat que font tous ceux et celles qui rencontrent Jésus. Il n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Il n'enseigne pas comme les scribes. Et là, qu'est-ce qu'on évoque ? On évoque l'autorité de Jésus. Son autorité, ce n'est pas celle des scribes et des pharisiens. Elle est différente. Qu'est-ce que cela ? Comment peut-il enseigner cette manière-là ? Donc c'est un enseignement qui porte en lui-même voilà, comme une interrogation, une manière d'enseigner. Il n'enseigne pas comme les maîtres. Il n'enseigne pas comme ceux et celles qui écrasent de leur savoir ou de leurs compétences. Ou qui enferme. Et là, je crois que ce mot d'autorité est important. C'est un mot, vous savez, qui, dans l'origine, dans l'étymologie, veut dire faire grandir. Faire grandir. Le souci de Jésus, c'est de faire grandir. C'est de faire grandir ceux et celles qu'il rencontre, de les faire grandir dans une véritable liberté. Liberté par rapport, il reviendra, par rapport à la loi, mais une vraie liberté par rapport à la Torah. Liberté peut-être aussi par rapport à leur propre vie. Liberté aussi par rapport au monde dans lequel ils se trouvent. Jésus n'enferme pas. Il n'écrase pas. Il libère. Et il libère, on pourrait évoquer ici, le fait que si précisément son enseignement porte cette capacité de libération, c'est parce qu'il est lui-même libre. Il reviendra après, c'est un point pour moi important. Il est libre en ce sens qu'il n'a pas d'autre mission, il n'a pas d'autre vocation que de conduire au Père. Sa liberté profonde, elle est là, c'est de conduire au Père. C'est de conduire à celui qui l'a envoyé. Donc de ce point de vue, on pourrait dire que dans sa manière d'enseigner, Jésus ne se comporte pas en enseignant. Je n'ai rien contre les enseignants, hein, bien au contraire, vous comprenez ce que je veux dire. Ou même en dépositaire d'un savoir qui pourrait le conforter dans un rôle social. C'est vrai qu'on peut très très vite se trouver un peu pris au piège d'une fonction qui fait qu'on est reconnu, qu'on a un certain pouvoir. Voilà. Il n'y a rien de tel chez Jésus. Non, ce dont il est le témoin, il est le témoin du règne de Dieu. Et il est le messager de la grâce de Dieu. C'est pour ça que tout fils de Dieu qu'il est, son enseignement renvoie toujours à plus grand que lui. Vous noterez, il renvoie toujours à son Père, toujours à son Père. Et étonnamment, il n'hésite pas parfois à reconnaître son ignorance. C'est impressionnant, hein, le nombre de fois où l'on voit Jésus dire « Mais non, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est réservé à mon Père. » Ou bien la connaissance du jour ou de l'heure du jugement. Non, je ne le sais pas. Donc, le maître par excellence qu'il est, mais qui se situe dans une relation de dépendance par rapport à son Père. Je ne vous dirais pas cela si je ne l'avais reçu de mon Père, dans l'évangile de Jean. Tout ce que je vous dis, tout ce que je fais, je le dis et je le fais parce que je l'ai reçu de mon Père. Là, il faudrait relire l'évangile de Jean. Magnifique, magnifique. Et avec ce souci constant de Jésus. Il revient. Donc, on sent bien que c'est... Vous voyez ? Il ne va pas enfermer. Alors, quand je dis qu'il ne va pas enfermer, on pourrait aussi évoquer le fait que il n'y a pas de séduction dans l'enseignement de Jésus. Il n'y a pas de séduction. Ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas quelqu'un qui enferme ceux et celles qui l'a choisi ou qui viennent à sa rencontre dans des relations qui pourraient être faites de séduction ou qui pourraient être aussi parfois de mainmise. Plus forte raison de mainmise affective. Il n'y a rien de cela chez Jésus. Et on le voit bien dans l'épisode avec cette femme qui vient et qui se précipite et qui va oindre les pieds de Jésus de parfum. Et Jésus va reconnaître la grandeur de ce geste, peut-être même l'amour de cette femme. Mais c'est pour conduire à son Père, toujours pour conduire à son Père. Une pédagogie, c'est vrai, d'un enseignement dans le monde, à partir de ce qui fait la vie de chacun, dans un souci de ne pas enfermer, dans un souci de ne pas posséder, mais dans un souci au contraire de libérer. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus se méfie du succès. Il se méfie du succès. Il se méfie de l'attrait que ces miracles pourraient exercer. Il se méfie du merveilleux. Il sait que, voilà. Et là, nous en arrivons à un dernier point. Cet enseignement, c'est un enseignement qui est exigeant. Mais précisément, parce que dans le souci de Jésus de libérer, de faire grandir, il y a profondément, voilà, dans le souci de rester fidèle au message du Père. Et ce message est exigeant. Mais Jésus n'élude pas les questions. Il n'élude pas les difficultés. Jamais. Il n'élude pas. À tel point, nous le savons bien, que précisément, cet enseignement sera en grande partie rejeté. Il y reviendra à la fin. Il sera rejeté. Il y a bien la tension. Il y a bien la tension aux personnes. Il y a bien tout ce qui... Tout ce souci justement de partir de la vie, ce qu'on a vu ensemble, mais c'est toujours là, c'est pour conduire au Père, à celui qui libère, avec les exigences qui sont inhérentes à son enseignement.
Un chemin pour devenir chrétien, guidé par la pédagogie du Christ. Vous venez de suivre la première partie de l'intervention du Père Pierre Deberger, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, une intervention enregistrée le 27 octobre 2006 à Ustaritz, lors de la session de rentrée des catéchistes. Vous pourrez suivre la suite de cette intervention du Père Pierre Deberger la semaine prochaine sur notre antenne, même jour, même heure.